Cet épisode a été réalisé grâce à la contribution de ArchiPro. ArchiPro est une application web de gestion de chantier. Vous êtes à la recherche d'une solution complète, intuitive et innovante pour optimiser chaque aspect de vos chantiers? ArchiPro est là pour répondre à vos besoins. Avec ArchiPro, planifiez vos tâches avec précision, gérez vos budgets avec facilité et suivez l'exécution de vos projets en temps réel. Grâce à sa plateforme web unique, rassemblez tous les acteurs du chantier pour une collaboration optimale. Vous bénéficierez d'une gestion efficace de chaque étape de votre projet, de la planification des travaux à la documentation, en passant par la gestion des sous-traitants et l'évaluation des performances. Des dizaines d'entreprises ont déjà fait confiance à ArchiPro pour leurs projets de construction. Rejoignez-les dès maintenant et transformez vos défis en opportunités. Pour avoir toutes les informations sur ArchiPro, rendez-vous sur le site www.archipro.ci.
Autant au début, je ne savais pas ce que je voulais faire, autant à la fin, j'étais persuadée que j'allais travailler pour une multinationale. C'est ce que je voulais faire.
Ok.
Donc, je m'en suis tenue à ça. Parce que j'avais fait un stage et normalement, c'était un stage, on va dire, plutôt en maîtrise d'ouvrage délégué. Peut-être que plus tard dans le podcast, on va peut-être expliquer ce que ça veut dire. Justement, quand j'ai demandé à avoir une audience avec le directeur des ressources humaines qui m'a reçu, je lui dis merci et qui m'a fait un feedback très honnête. Il m'a dit, moi, je n'ai rien à te reprocher techniquement. La plupart des personnes qui ont travaillé avec toi également sur le plan technique, on n'a rien à te reprocher. Quand on te donne une tâche, tu sais aller au bout de la tâche. Par contre, tu n'as pas su intégrer. Tu n'as pas su travailler avec les autres. Tu n'as pas su avoir une vie, comme tu l'as dit, associative. Vous êtes isolé sur le chantier, un chantier à 400 km d'Abidjan. Vous êtes ensemble sur une base vie. Tu n'étais pas lié. C'est pas forcément d'amitié, mais il faut que quand même tu puisses communiquer avec les gens, que les gens prennent plaisir à travailler avec toi. La vie d'une femme dans un milieu dominé par les hommes n'est pas simple, n'est pas facile. Parce que quand tu arrives, tu fais tâche, déjà pour commencer. Tu fais tâche et bah, des fois, dans la tête de certains de tes collaborateurs masculins, la limite entre le privé et le professionnel est très, 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 très fine. Je m'explique. Des fois, ils pensent que leur collaboratrice femme est leur femme.
Bonjour et bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil. Ici à la Madogo. Nous démarrons aujourd'hui la deuxième saison du podcast avec Lafissourit Kwaku. C'est avec un grand plaisir que je reprends le podcast après une longue pause. Cette reprise est encore plus particulière avec la réception d'une dame pour la première fois comme invitée. Responsable budget et planning dans un grand groupe BTP de la place, Lafissourit est un ingénieur génie civil. Après son diplôme d'ingénieur obtenu à l'Institut international de l'ingénierie de Dieu au Burkina Faso, elle a travaillé sur des projets avec beaucoup de challenges, depuis sa sortie de l'école jusqu'à aujourd'hui. Dans cet épisode, nous parlons de son parcours universitaire, de son expérience professionnelle, des différents métiers qu'elle a eu à exercer, tels que la qualité, le laboratoire, et aussi des choix peu orthodoxes qu'elle a fait pour obtenir ses stages et ses jobs. Nous vulgarisons aussi des domaines clés comme la budgétisation d'un projet et le planning. Nous avons aussi abordé la place qu'occupaient les femmes dans un milieu essentiellement dominé par des hommes. J'ai pris un énorme plaisir à réaliser cet épisode. En vous souhaitant une excellente écoute, n'oubliez pas de commenter le podcast, d'en parler autour de vous et de noter 5 étoiles et de le noter 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Sur ce, je vous laisse profiter de cette discussion. Merci et à plus. Bonjour Lafissou et bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil.
Bonjour Seriki.
C'est vraiment un plaisir parce que c'est la première fois qu'une dame passe sur le podcast.
Ah ouais.
Donc c'est un honneur pour moi de débuter la deuxième saison du podcast avec toi.
Parfait.
Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Qui est Lafissou?
Lafissou est une jeune Ivoirienne de 28 ans. Diplômée de 2IE, Institut international de l'eau et de l'environnement Burkina Faso, Ouagadougou. Donc, titulaire d'un Master 2 en route et ouvrage d'art. À l'époque, c'est comme ça que ça s'appelle, mais pour faire plus simple, c'est des travaux publics. Donc, tout ce qui est pont et chaussée.
OK.
Depuis 2016. Voilà. Grosso modo, c'est la Fissou. Passionnée de sport aussi, je vais l'ajouter. Voilà.
D'accord. Ben, j'imagine le génie civil. Quand tu n'es pas en bureau d'études, ça ne va pas sans le sport.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
D'accord. La question qui vient généralement après la présentation, j'aime demander aux invités pourquoi le génie civil.
Pourquoi le génie civil?
Oui.
Il faut dire que lorsque j'ai eu mon bac, honnêtement, je ne savais pas quoi faire.
Ok.
Je ne fais pas partie de ces personnes-là qui avaient un projet de carrière très, très clair dans la tête. J'y suis allée, comme j'aime le dire, à tâtons. Donc, lorsque j'intègre 2IE, nous sommes en tronc commun.
Okay.
Donc, on fait du génie civil, de l'énergie, de l'électricité, on fait de l'hydraulique et tout ça. Donc, pendant la première et la deuxième année. Et il faut dire que, bon, j'ai cherché un stage... au niveau de l'hydraulique, en deuxième année, mon stage d'immersion qui était obligatoire. Et bon, je n'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé un stage à la Géroute. Donc, c'est là que je commence à voir que bah, cette histoire-là, c'est intéressant. Le concept de faire quelque chose que tu vas retrouver 10 ans, 15 ans plus tard, que des gens vont utiliser et surtout qui change la vie de la population de façon significative.
Effectivement.
C'est ça qui m'a frappée. Et puis, le challenge, le défi, le fait que ce ne soit pas quelque chose de très aisé. Et ça me fascinait, pour terminer, de voir de gros engins. Je les voyais comme de grosses bêtes, là, qui faisaient des travaux titanesques. Ça m'a tout de suite frappée. Je dis, c'est ça que je veux faire, quoi.
Effectivement, pour rajouter un peu à ce que tu dis... parfois, même en tant qu'ingénieur génie civil avec un certain nombre d'années d'expérience, tu vois le démarrage du chantier, c'est vide, et puis après, tu reviens quelques temps après, tu vois toute cette transformation-là.
Exactement.
C'est clair que ça peut motiver quelqu'un à aller vers le génie civil.
C'est une vision un peu poétique des choses, mais oui, c'est ça.
Donc, c'est-à-dire que pour toi, il n'y a pas eu, on va dire quoi, une influence extérieure en tant que telle?
Absolument pas, dans la mesure où, lorsque je regarde dans mon environnement immédiat, je ne vois pas de personne dans le domaine. Dans ma famille, il faut dire que je suis la première de mon espèce. Appelez-moi Daenerys Targaryen, c'est comme ça.
pour la référence, on parle de Game of Thrones. Il y a toujours des gens qui n'ont pas regardé ça.
Ah, ben c'est dommage. Voilà, donc je n'ai pas eu vraiment d'influence pour me guider dans ce domaine-là, pas vraiment. Non.
D'accord. C'est assez rare quand même parce que... Généralement, quand on demande à certaines personnes, soit j'ai vu un oncle, j'ai vu un grand frère, ainsi de suite.
Mais quand j'étais petit, j'allais sur des chantiers.
Exactement.
Et tout ça. Non, la construction, ça ne me disait rien du tout. Ouais. Comme je ne sais pas.
Tu n'es pas la première invitée à dire ça parce que j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont dit effectivement, ils sont venus au génie civil juste par la force des choses, n'est-ce pas qu'ils rêvaient de le faire, ainsi de suite et tout. D'accord, maintenant qu'on sait pourquoi est-ce que tu es venu au génie civil, après ta sortie de l'école, qu'est-ce que tu as fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Après la sortie de l'école, je me suis cassé les dents, je me suis cassé la tête et j'ai eu une leçon d'humilité. Alors, tu finis l'école à 21 ans. Donc, tu te dis, ouais, je suis jeune, je vais commencer à travailler et tout ça. C'est une source de fierté. Ouais. Mais il faut faire souvent attention à la fierté parce qu'elle se transforme très vite en orgueil. Donc, j'ai une leçon d'humilité de la vie parce que je fais un an et demi à chercher du travail et je n'en trouve pas.
Ça, si on le dit à certaines personnes, oui, le génie civil est en boom en Côte d'Ivoire depuis peut-être 2011-2012. Si on dit à certaines personnes qui ne sont pas du domaine que c'est parfois difficile de trouver du travail, les gens resteront perplexes, ils ne vont pas croire. Mais c'est la vérité. Déjà, on peut ne même pas trouver ou bien trouver quelque chose qui ne nous convient absolument pas.
Exactement.
C'était quoi pour toi?
Alors, je trouvais des choses qui ne me convenaient pas. Okay. J'avais une idée très, très, très arrêtée. Autant au début, je ne savais pas ce que je voulais faire, autant à la fin, j'étais persuadée que j'allais travailler pour une multinationale. C'est ce que je voulais faire. Okay. Donc, je m'en suis tenue à ça. Parce que j'avais fait un stage, et normalement, c'était un stage, on va dire, plutôt en maîtrise d'ouvrage délégué. Peut-être que plus tard dans le podcast, on va peut-être expliquer ce que ça veut dire. Okay. Mais on se comprend. Donc, c'était un maîtrise d'ouvrage délégué. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Je voulais commencer en exécution. Parce que c'est là-bas que tu touches du doigt les
réalités.
Les réalités. Tu confrontes la théorie à la pratique.
Exactement.
Si tu démarres en maîtrise, en tout cas, c'était ma philosophie. Si tu démarres en maîtrise d'ouvrage, tu vas perdre un peu certaines choses. Donc, je ne voulais pas.
C'est-à-dire quoi? Si tu commences en maîtrise d'ouvrage délégué directement, tu penses que tu seras plus administrative?
Exactement. Je ne voulais pas être administrative. Je voulais vraiment comprendre le métier, d'où on part et où est-ce qu'on en arrive. Et puis après, maintenant, si tu dois faire un contrôle ou devenir expert, c'est légitime. Ouais. J'ai ce souci de légitimité. Là, on en parlait en off, mais c'est ça. Je veux toujours être sûr que j'ai les bases nécessaires pour pouvoir parler d'un sujet avant d'ouvrir la bouche sur le sujet. Donc, j'étais sûre. C'était, pour moi, multinational. Pas moins que ça.
D'accord. Donc, tu as fait un an en train de chercher une multinationale.
Attention, lorsque je finis, je suis tout de suite approchée par un aîné qui, justement, vient d'une multinationale et qui me dit, tu as un profil excellent, tu peux intéresser ces jeunes, tu es jeune, tu es une femme et tout, tu peux intéresser telle entreprise, postule. Donc, il m'envoie les mails de la DRH, de plein de gens à l'intérieur. Il faut dire que je ne le connaissais pas, en fait, le monsieur, mais c'est sur LinkedIn et tout. Donc, je saisis l'opportunité et j'envoie mon CV. Tout de suite, on me répond. On me dit, oui, on va te trouver un stage et tout. Donc, moi, j'étais confiante. Mon plan était en marche. Et puis, deux mois, trois mois, six mois, toujours pas de réponse. Et il y a mon père qui me disait, tu ne vas pas chercher ailleurs. Je dis, non, je sais que c'est là-bas, là, je dois travailler. Enfin, quand tu as une fille têtue comme moi, ce n'est pas facile. Donc, j'insiste. Et puis, un jour, je prends mon courage à deux mains. Et puis, je me rends même dans les locaux de la boîte. Je dis, je suis venue déposer mon CV. On dit, vous avez rendez-vous? Je dis, non, je suis venue déposer mon CV et tout. Donc, une fois, deux fois, comme ça, c'est comme ça qu'on me rappelle. Et puis, ça démarre. Mais ça a pris quand même un an et demi et tout. Voilà.
Mais ça demande quand même du cran. Hein. Ça dit que je veux faire ça ou rien.
Oui.
Bon, plus ou moins. Je veux faire ça ou rien, plus ou moins. Et puis, on envoie des mails, ça ne passe pas. Après, on dépose les CV en physique.
Exact.
Tu penses que le fait d'avoir déposé les CV en physique ont eu un impact sur la décision finale ou...
Oui, je pense que mon cran a un peu déboussolé le RH. Je me rappelle, pendant qu'on parle, je me rappelle de son expression de visage. Soit elle est folle, soit elle est désespérée. Mais dans tous les cas, ça me parle, en fait, parce qu'il faut quand même un peu d'audace pour venir dire, j'ai pas de rendez-vous, mais tenez mon CV, moi, je veux travailler. Et bon, je pense que ça a été peut-être un élément en ma faveur, voilà.
Ça dit que tu allais voir le DRH directement?
Pas la DRH, j'ai vu son collaborateur. Je lui ai dit, j'ai pas de rendez-vous, je veux voir telle dame. Puisque c'est avec la dame que je parlais par mail. Il m'a dit, non, mais elle est en congé. J'ai dit, ok, d'accord, non, tenez et tout, mais si elle arrive et tout ça. J'étais toute candide et naïve et pleine d'espoir que ma démarche allait mener à un résultat positif.
En fait, ça me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que lorsqu'on ne sait pas comment les choses se passent, on peut mener certaines actions. En fait. Par contre, quand on est intégré dans l'entreprise, on sait comment les choses marchent, on est freiné par...
C'est ça.
Parce que généralement, avec l'expérience que tu as aujourd'hui,
oui.
c'est pas sûr que tu aurais fait la même chose.
Mais écoute, plus tard encore, j'ai refait la même chose. Parce qu'il y a des moments, je me dis, pour avoir ce que tu veux, il faut aller au culot. Voilà, il faut y aller au culot. Et tu perds rien.
Effectivement.
Quelqu'un m'a dit une fois, la pire chose qu'on peut te dire, c'est non.
C'est non.
Donc, ça ne va pas te tuer qu'on te dise non. Vas-y.
Effectivement.
Si la méthode orthodoxe ne marche pas, mais tu sors des sentiers battus et tu essaies. C'est tout.
OK. Voilà. Ben après ça, c'était comment l'expérience?
Je commence en laboratoire. Je commence en laboratoire et ma première semaine, tout le labo est déporté sur le terrain. Donc tout le monde part, tous ceux qui doivent m'expliquer comment les choses se passent. Moi, j'ai eu le temps de voir 2-3 essais. On m'a montré les analyses granulométriques, c'est la base des bases en géotechnique, enfin au labo. Donc on me laisse des sacs de graveleux latéritiques. Et le chef de laboratoire me dit, je veux que les résultats là sortent dans 2 jours. Bah, vous venez de me briefer il y a à peine 1 jour. Je comprends, enfin, on a vu ça un peu à 2 yeux parce qu'on a la chance d'avoir des labos là-bas. Mais bon, donc j'étais là avec mes tamis et je secouais mes tamis comme ça. J'ai commencé à pleurer au bout de 2 heures, 3 heures. J'ai commencé à pleurer vraiment des larmes et tout. Je me suis dit, mais attends, ça c'est quel travail ça? Mais ça a été drôle. Ça a été aussi très formateur. C'est un travail physique parce qu'on m'a fait commencer... vraiment au bas de l'échelle pour que je comprenne.
Effectivement, parce que qui parle de route, on ne peut pas parler de construction de route sans parler de laboratoire. Donc,
exact.
Généralement, quand on fait un laboratoire avant de se déporter sur le terrain, ou bien on commence par le laboratoire, on est plus ou moins calé parce qu'après, tout est une histoire de matériaux, ainsi
Exactement.
De suite.
Exactement. Exactement.
Et après l'expérience, comment ça s'est passé?
Qu'est-ce que tu entends par comment ça s'est passé?
Tu as commencé au bas déjà, tu as eu du cran, tu as déposé ton CV, tu as commencé.
J'ai eu mon stage.
Tu as eu ton stage,
oui.
Tu as commencé au bas de l'échelle.
Oui.
Quoi, tu as fait un stage de 3 mois, 6 mois.
Alors, j'ai fait un stage de 3 mois. J'étais censée faire même 2 périodes de 3 mois. Donc, la première période, c'était purement en labo. On avait un laboratoire, on avait aussi une centrale d'enrobée. Donc, c'était les échantillons qui venaient des chantiers. Et aussi l'analyse de la conformité, de la qualité de l'enrobé qui sortait de la centrale. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois et ensuite le chef de labo m'a dit « Bon, maintenant tu vas aller sur le terrain parce qu'il y a des essais in situ, par exemple des essais de densité, etc. etc. Si, si. Tu les feras sur le terrain, donc tu vas aller sur le terrain. » Donc je suis partie sur un chantier, à l'époque c'était la route devant Abidjan Mall et tout. Donc je suis partie là-bas. Et je devais faire une période de 3 mois encore supplémentaire. Mais au bout de... Enfin, lorsque la deuxième période commence, 1 mois après, le directeur technique me dit, me convoque au siège et me dit, bah, écoute, les retours de ton patron sont très bons. Voilà, tu es proactif, tu es force de proposition, tu es ponctuel et tout ça. Et on pense que ton potentiel... tu peux basculer en qualité sur un chantier. Donc, il me présente le chantier 125 km. Il s'agit d'un chantier de renforcement et tout dans le nord du pays. Moi, dès que j'entends les trucs qui sont titanesques, comme je viens de le dire, en même temps, tac, ça me branche.
Je vois.
Donc, j'ai dit, OK, est-ce que tu es prête à partir? Je dis, ouais, mais mon sac, il est prêt depuis hier. Donc, on dit, OK, tu pars pour être ingénieur qualité. Ok, donc ça se fait en une semaine. J'en parle à mon chef, il me dit qu'est-ce que tu en penses? Voilà le chemin qui s'offre à toi si tu restes au labo. C'est de devenir après chef labo adjoint. Après, si tu vas au chantier, je ne connais pas quelle est la trajectoire que ta carrière va prendre. Voilà ce que moi je te propose. Maintenant, à toi de voir ce qui te parle plus. Mais ce qui me parlait plus, franchement dit, pour quelqu'un à l'époque qui avait vraiment soif de connaissances, c'est d'aller voir comment un grand chantier comme ça pouvait se passer. C'est des choses qu'on n'a pas... je peux passer à côté de ça et puis ne plus revoir un chantier de cette taille-là après. Je ne
oui,
sais pas.
C'est clair.
Voilà. Donc, je suis partie en tant qu'ingénieur qualité sur le chantier de la route du Nord. Voilà la seconde étape de ma carrière.
Et après, c'est-à-dire, le chantier s'est déroulé, il n'y a pas eu de... Bon, disons, il y a obligatoirement eu des défis,
bien
mais ça
sûr.
S'est bien passé dans l'ensemble.
J'ai eu 2 changements. Je suis passée de la qualité de 2018 à 2019. J'ai fait de la qualité. Et puis après, j'ai commencé à faire du planning. J'ai commencé à faire des travaux. J'ai demandé même à pouvoir faire un peu de conduite de travaux.
C'était en parallèle ou tu as laissé finalement la qualité pour
J'ai laissé
faire...
la qualité carrément.
D'accord.
Il y avait un besoin d'un G planning et budget. On avait un ingénieur travaux qui était là et qui est parti. Donc, le poste était vacant. Et puis, encore une fois, le directeur de projet remarque que bah, la jeune fille qui a la qualité, là, elle est dynamique et tout. Elle peut tenir ce poste-là. Effectivement, c'est un pari qu'il fait. Et je pense qu'au vu de ma trajectoire et de là où je suis, c'est un défi que j'ai relevé. Donc, on fait de la planification. Surtout au niveau de la carrière, on avait vraiment un challenge de production. On travaillait pratiquement à flux tendu, c'est-à-dire tout ce qui sort de la carrière est directement consommé. On n'avait pas de stock, c'était un peu difficile. Donc, c'était un problème à résoudre. On avait besoin d'avoir de la visibilité, des tableaux, des graphiques, des choses très claires. Et donc, j'ai contribué à construire ça et à construire même tout ce qui est outil de suivi de la production de la carrière à l'époque. Et donc, après ça, une fois que c'est fait, le hic avec les outils, c'est que lorsqu'ils sont faits et que tout le monde les a pris en main, ça roule tout seul.
Oui, bien sûr, on n'a plus besoin de... C'est un peu comme lorsqu'on a besoin d'un chemin, celui qui passe, c'est lui qui prend la rosée. Et
exactement.
Après ça, ça roule comme sur des roulettes.
C'est ça. Donc, comme ça a commencé à rouler, que je m'ennuyais, j'ai dit, je veux faire des travaux, je veux avoir une équipe, je veux diriger. On a dit, ok, d'accord, mademoiselle... La gloutonne, on va te donner quelque chose. Donc, on me donne une équipe, plusieurs équipes de sous-traitants pour, qui doivent faire quoi ? Des fossés bétonnés le long de la trace et tout. Donc, j'ai suivi, j'avais un chef chantier et puis maintenant, je suivais les sous-traitants et tout ça. C'était une très belle expérience et c'est sur cette note-là, donc travaux, planification, que je termine le chantier de la route du Nord.
Avec l'entreprise, ou bien tu termines aussi, on va dire quoi, ta prestation avec l'entreprise, ou bien tu restes dans la même entreprise et puis tu vas sur un autre chantier.
Non, je termine ma prestation avec l'entreprise. C'est bon, c'est fini. Et encore une fois là, un an d'arrêt.
Waouh.
Un an d'arrêt. Donc, je ne comprends pas parce que...
On t'arrête ou tu décides d'arrêter et puis tu fais un an?
C'était un contrat à durée projet.
Ok, d'accord.
Donc, ta prestation est arrivée à terme.
Quand le projet est fini.
On te démobilise.
Ouais.
Normalement, quand on a un autre projet qui démarre, on doit te remobiliser si on estime que tu es un élément qui nous a été utile.
C'est ça.
Je pense que j'ai été utile, mais bon, par la force des choses, je n'ai pas été reconduite. Donc pendant 6 mois, c'est la confusion. Je ne comprends pas, je fais plusieurs relances, je ne comprends pas. Mais bon, je me dis, il n'y a rien qui arrive dans ma vie, dans mon parcours par hasard. Au-delà, là je vais faire une petite parenthèse, au-delà des compétences techniques qu'il faut bien entendu maîtriser, il y a un aspect du relationnel qui est très, 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 très important.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vas continuer après, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Mm-hmm. C'est-à-dire que, généralement, lorsque nous sommes à l'école, on pense que c'est seulement ce qu'on fait qui est important.
Mm-hmm.
Mais comme tu le dis, il y a le relationnel,
ouais.
Il y a le savoir-être, il y a ouais. Tout ce qui est vie associative,
ouais.
Ainsi de suite, qui te permettent de t'intégrer, on va dire, au monde en tant que tel.
C'est ça.
Certes, tu peux être un bon technicien, mais mm-hmm. si tu n'as pas ce contact facile, la prise de parole facile, ainsi
exactement.
De suite, ça devient difficile après de... C'est même ça. Te donner des postes, certains postes de responsabilité, au fait.
C'est ça. Et je pense que c'est ça, justement. Quand j'ai demandé à avoir une audience avec le directeur des ressources humaines, qui m'a reçue, je lui dis merci, et qui m'a fait un feedback très honnête. Il m'a dit, moi, je n'ai rien à te reprocher techniquement. La plupart des personnes qui ont travaillé avec toi également sur le plan technique, on n'a rien à te reprocher. Quand on te donne une tâche, tu sais aller au bout de la tâche. Par contre, tu n'as pas su t'intégrer. Tu n'as pas su travailler avec les autres. Tu n'as pas su avoir une vie, comme tu l'as dit, associative. Vous êtes isolé sur le chantier, un chantier à 400 km d'Abidjan. Vous êtes ensemble sur une base vie. Tu ne t'es pas lié c'est pas forcément d'amitié, mais il faut que quand même tu puisses communiquer avec les gens, que les gens prennent plaisir à travailler avec toi.
C'est un peu comme si on disait qu'il faut qu'on soit un groupe.
C'est ça.
Parce que c'est comme on doit former un, en fait. Mais c'est toi, ça. Tu es tout le temps à côté. Dès qu'on finit le chantier, soit tu es enfermé dans ta chambre ou bien c'est tu ça. As d'autres personnes que tu connais, tu vas là-bas. Mm-hmm. Pourtant, le fait de toujours rester ensemble, ça resserre les liens et plus bon, ça exactement. Permet de fluidifier le travail exactement. À la longue, en fait.
Créer un esprit de corporation et tout ça. On travaille en équipe, c'est ça. Et donc, il me dit, si je dois te faire un reproche et si tu as un axe d'amélioration, c'est bien celui-là, le social. La façon dont tu te vends, l'image qu'on a de toi, c'est très important. Et donc, je pense que cette période-là de flottement, encore une fois, m'a permis de rentrer en moi-même. Et je me suis dit, bon, j'ai du temps, on va prendre à quelque chose, malheur est bon. Je me plaignais d'être loin et de ne pas avoir, par exemple, de vie au niveau de l'église. Parce qu'il faut dire que je suis très, très, très portée spiritualité. Donc, si j'ai un problème avec le fait de travailler avec les gens, c'est l'occasion de travailler ça. Donc, je vais m'intégrer dans un département à l'église et puis je vais commencer à faire les activités de l'église. Ça va me permettre de travailler avec les gens et ça va me permettre de corriger ce qu'on m'a reproché sur le plan professionnel. Donc, au lieu de me morfondre, ben, j'ai commencé à être super active. Donc, je faisais des activités, je préparais des événements. Et là, au fur et à mesure que j'interagissais avec les gens, je comprenais de plus en plus ce qu'on m'avait reproché à l'époque. Et puis, j'ai continué de postuler, bien entendu.
Oui, je vois.
Et par la suite, par la grâce de Dieu, j'ai été contactée par une autre entreprise. On a fait les entretiens, tout se passait bien et tout. Et encore, silence radio. Donc, tout à l'heure, comme j'ai dit, je suis encore allée au culot. Un jour, je déboule là-bas, j'arrive, je dis, je suis venue déposer mon CV. On dit...
En fait, tu parles et tu ris, j'imagine un peu.
On dit, vous avez rendez-vous avec quelqu'un en particulier? Je dis, non, j'ai pas de rendez-vous, mais je connais un des anciens aînés qui était avec moi sur la route du Nord là-bas, qui est là aussi. Donc, je vais passer même lui dire bonjour et tout ça. On dit, OK, allez-y. Bah, je pars, je dis, ah, bonjour, le père. Voilà. Mon CV dit, bah, ça tombe bien, je ne sais pas qui t'a mis la puce à l'oreille ou bien comment tu as su, mais il y a un directeur de projet qui est là. Et son chantier va bientôt démarrer. Il est en train de faire des recrutements. Va t'asseoir avec lui, discuter. Donc, il m'introduit. Et puis, le gars regarde mon CV et me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, moi, j'ai fait du planning et tout ça, donc je vais faire budget planning. Il dit, OK, il n'y a pas de souci, tu es embauché.
Aussi facilement.
C'est fini comme ça.
En fait, ce que tu dis, ça me fait penser à un livre que j'ai lu. En anglais, c'est Who Moved My Cheese ou un truc comme ça. C'est-à-dire mm-hmm. que qui a déplacé mon... Comment ils appellent ça? Mon fromage, pardon. Okay. Qui a déplacé mon fromage?
OK.
En fait, il s'agit des personnages fictifs qui vont dans un coin, ils mangent du fromage. Mm-hmm. Et puis au bout d'un moment, le fromage finit, ils ne s'en rendent pas compte parce que c'était assez. Mm-hmm. Maintenant, il y a un qui reste et puis l'autre s'en va. Il ne sait pas ce qu'il va trouver, mais il va chercher quand même. Mm-hmm. Et dans ses recherches, il trouve quelque chose. Pendant que l'autre, il est assis là et puis il ne trouve absolument rien. Bon. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que tant que tu ne jettes pas ton hameçon à l'eau, tu ne vas jamais attraper du poisson.
C'est
quoi.
Ça.
Et tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qu'on peut te dire, c'est non.
C'est ça.
Même si tu vas arriver au portail, qu'on te dit, bon, pas te laisser rentrer, c'est pas grave, tu répètes ton transport et tout, et puis c'est
et
tout.
Et puis c'est tout. Et puis, c'est effectivement, ce que tu as dit, parce que l'entreprise en question, il y a un concurrent qui est voisin, ils ne sont pas très loin. Donc, je suis passée d'abord chez le voisin, on ne m'a pas laissé rentrer. Donc, j'ai déposé mon CV à la guérite. Je ne suis pas sûre que mon CV est arrivé au RH.
C'est clair que ça ne va pas arriver.
Et je suis maintenant revenue et c'est là que j'ai fait mon truc, le numéro que j'ai expliqué. Et ben, j'ai commencé encore une fois dans la même région parce que mon premier projet, c'était à Katiola, mais là, c'était à Dabakala. Okay. C'était une région que je connaissais déjà et tout. Donc, je suis partie. Et mon patron, en dehors du planning et du budget, il a commencé même à me confier d'autres choses parce qu'il voyait que j'étais très agile sur Excel et tout ça. J'étais très smart, je posais beaucoup de questions parce que ça, c'est une qualité que j'ai. Je pose énormément de questions.
Mais c'est très important.
Si je ne comprends pas quelque chose, je n'ai aucun scrupule à dire je ne comprends pas, expliquez-moi. Et ça, je pense que c'est un conseil aux auditeurs, poser des questions.
En fait, c'est ce qui devait être normal.
Poser des questions, parce que les gens ont l'impression qu'on attend d'eux que ce soit des génies. Non, on sait que tu arrives, par exemple, dans un nouvel environnement, tu ne connais pas. Et c'est une forme d'orgueil que de ne pas poser des questions. Une fois que tu as posé une question, c'est fini, l'ignorance que tu avais au moment où on est en train de te répondre, elle disparaît. C'est une question de 10 secondes.
Ça me fait penser un peu à lorsqu'on était au lycée. Dans la classe, il y avait des personnes qui ne posaient jamais une question, yeah, bien qu'elles ne comprenaient pas. Mm-hmm. Et puis, il y avait d'autres aussi qui posaient à tout moment des questions. Mm-hmm. Et quand le professeur répondait, quand tu tournes, tu regardes, tu te rends compte que, ouais, en réalité, tout le monde était dans le même cas que toi.
Exactement.
Donc, je pense que ça ne doit pas s'arrêter même dans la vie active, au fait. Bien quand sûr. On ne comprend pas, on demande.
On demande. On fait des recherches, bien sûr, parce que contrairement à l'environnement, enfin, à l'école, l'environnement professionnel, ce n'est pas académique. On n'est pas dans un contexte académique. Donc, ce n'est pas au travail que tu vas avoir toutes les réponses. Il y a un travail personnel à faire en dehors de tes heures de travail, c'est sûr. Il faut poser des questions.
Ouais.
Et donc, moi, je posais beaucoup de questions. Et ce dynamisme-là, lui, a bien plu. Donc, on faisait plein d'autres choses et tout ça qui m'embêtaient souvent parce que je devais reprendre encore et encore et encore et encore et encore. Mais comme, en fait, mon année sabbatique, on va dire ça, m'a permis de comprendre quelque chose. Un chef, un manager, il a ses qualités, il a ses défauts.
Oui, comme tout être humain.
Et tu le prends avec ses qualités et avec ses défauts. Et l'intelligence même va plus loin que de comprendre ton métier. Il faut comprendre ton manager et arriver à anticiper sur ses besoins. Et c'est ça que je faisais arriver à un moment donné. C'est-à-dire que quand je fais un travail, finalement, je fais proposition 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, quand il commence, je dis, bon, effectivement, je me suis dit que tu allais penser à ça. Donc, tiens la proposition. Voilà. Et donc, c'est des choses qui font qu'on t'apprécie d'une façon ou d'une autre.
C'est clair.
Voilà. Donc, quand le moment, malheureusement, est arrivé de démissionner, c'était même avec des larmes que je l'ai appelé. Je lui ai dit, bah, chef, je veux partir. Lui-même... Il dit, mais pourquoi et tout. Je dis, bon, voilà. Mon premier chef m'a appelé. Il m'a proposé encore un défi titanesque. Je ne peux pas refuser et tout. Il a même voulu surenchérir sur la proposition salariale, mais il ne pouvait pas compétir. Donc, je suis partie au bout de 6 mois.
Oh, 6 mois?
Oui, au bout de 6 mois,
okay.
Je suis partie. Donc, là, présentement, je suis... au niveau du budget, du planning,
okay.
J'ai voilà, ma petite équipe, mais au départ, j'étais toute seule. J'étais toute seule pour mettre en place les budgets, les plannings d'une quinzaine de chantiers. Et il y avait un gros défi, c'est que je devais faire ça sur 2 mois, quand je suis arrivée. Les 2 mois qui ont suivi mon arrivée, j'ai travaillé de 6h à 21h tous les jours.
Wow.
Et je travaillais même le samedi et même le dimanche. Je travaillais. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à se tuer. Mais je veux dire, quand tu as une vision, je me suis dit, c'est temporaire. Ce n'est pas toute la vie que je vais faire ça. Mais j'ai une vision, j'ai un challenge. Je dois prouver. Je dois prouver quelque chose. Donc, je vais me donner les moyens, le temps nécessaire. Et donc, je me suis donné les moyens. Ça a payé. Ça m'a valu des félicitations et des récompenses,
ouais,
aussi. Donc, voilà, si tu as un objectif, si tu arrives quelque part, tu as un objectif, donne-toi les moyens de le faire. Si ça nécessite des sacrifices, il faut avoir peur de se sacrifier. On se sacrifie une fois, on ne se sacrifie pas sur une longue période de temps. Aujourd'hui, après le sacrifice, j'ai dit à mon chef, honnêtement, ça, je l'ai fait. J'avais l'adrénaline, j'avais le boost qu'il fallait.
Il fallait faire tes preuves.
Voilà, mais j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin d'être soutenue parce que la tâche, elle est grande et je ne peux pas faire ça toute seule. Il m'a donné l'autorisation de monter mon équipe. Donc, l'équipe est montée aujourd'hui et on travaille vraiment bien. Et je suis satisfaite, en tout cas, de ce qu'on produit.
Voilà. D'accord. Maintenant que tu nous as parlé de ton parcours, mm-hmm, on va dire quoi, de manière vraiment détaillée, j'apprécie d'ailleurs. On va parler maintenant du métier d'ingénieur budget et planning.
Okay.
C'est quoi un ingénieur budget et planning?
Un ingénieur budget planning, qu'est-ce qu'il fait? Il établit, il élabore ce qu'on appelle les budgets. Alors, le budget, c'est l'enveloppe financière dont dispose le projet pour pouvoir exécuter ces différentes tâches. D'accord?
OK.
Donc, le budget, c'est quoi? Le budget, c'est les ressources. Les ressources, c'est les hommes, le matériel, les fournitures.
C'est ça. Ça.
Donc, c'est à toi de chiffrer en fonction d'un rendement. Et c'est là que le planning rentre en ligne de compte. Donc, c'est vraiment deux entités ou deux domaines qui travaillent ensemble, de pair. Donc, le rendement, c'est ta vitesse d'avancement, c'est ta capacité de production pour une activité donnée. On a un délai quand on commence un projet, on n'a pas toute la vie. D'ailleurs, c'est la définition fondamentale d'un projet. Voilà, il a un début et il a une fin.
Ouais.
Donc, tu as un délai dans lequel tu dois faire une série d'activités. Et donc, tu te définis une vitesse d'avancement qui va te permettre de rentrer dans ce délai qui t'a imparti. Donc, avec ce rendement-là, maintenant, tu reviens et tu calcules les ressources qui vont te permettre de pouvoir faire ce rendement-là de façon quotidienne et donc de respecter ton délai. C'est aussi simple que ça. Je l'explique de façon bête pour tout le monde, pour que le profane ou le spécialiste puisse se retrouver dans la définition.
D'accord. Donc, si je veux résumer,
oui.
Le budget, c'est, on va dire quoi ? Tu l'as dit, ton enveloppe,
oui.
Qui comprend le personnel,
oui.
Le matériel,
oui.
Et puis les fournitures.
Les fournitures.
Et tout ça, tu dois, on va dire quoi, malaxer de telle sorte que ça puisse aller avec ton planning parce que tu es limité dans le temps.
C'est ça.
Maintenant, en cas d'imprévu,
oui.
Ça se passe comment ?
En cas d'imprévu.
Parce qu'aucun chantier ne va sans imprévu. Hein.
Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on a souvent des événements non prévisibles qui arrivent sur le chantier. Déjà, il faut encadrer l'activité du projet toujours de façon contractuelle. Donc, il faut toujours avoir l'historique. Donc, c'est pour ça que de plus en plus sur les chantiers, on a ce qu'on appelle un contract manager qui est là pour rythmer, suivre de façon contractuelle le chantier. Donc, lorsqu'on arrive, par exemple, à un dépassement de quantité, on avait des quantités initiales qui n'étaient pas prévues. Et bon, après, quand on fait l'exécution, on se rend compte que les quantités initiales sont dépassées.
Okay.
Parce qu'on rencontre des événements sur le chantier qui n'étaient pas prévisibles et tout. Ben, le planning, il se récale, tout simplement. Mais il se récale en ayant une discussion, justement, avec ton maître d'ouvrage, qui est ton client, en lui disant, écoute, cher client, voilà les conditions initiales dans lesquelles j'ai fait mon budget, j'ai fait mon planning pour respecter le délai que tu m'as donné. Voilà les difficultés que je suis en train de rencontrer. Je t'apporte les preuves de tout ça. Je demande une prolongation de délai par rapport justement à ça. Si tu es d'accord, je te refais mon planning, je te chiffre tout ça. S'il y a lieu de faire un avenant, on le fera et on avance. Donc, il faut toujours faire ce suivi contractuel-là du projet.
Mais est-ce que ça passe toujours? Parce que, certes, tu vas voir ton maître d'ouvrage, tu
oui.
lui dis qu'on a croisé tel et tel imprévu.
Oui.
Si on veut faire ça et puis terminer le chantier, on va accuser un retard de 3, 6, voire 6 mois.
Mm-hmm.
Est-ce que le maître d'ouvrage, il accepte systématiquement?
Il n'accepte pas systématiquement, mais de ce que j'ai pu observer,
oui.
Comme je l'ai dit, lorsqu'il y a ce suivi contractuel-là, les choses sont scientifiques. Je t'apporte la preuve factuellement que les quantités sont dépassées. C'est toi le client. Si tu décides que tu m'as donné cette enveloppe financière-là et que j'arrive et je fais la moitié de route et je m'arrête, il n'y a pas de souci, moi je peux m'arrêter. En général, le client, il veut livrer une route aux populations. Donc, une route qui va d'un point A à un point B. Voilà. Donc, en général, après quelques discussions, normalement, les prolongations de délai, elles sont acceptées.
À part, on va dire quoi, les imprévus qui vont engendrer des avenants, des prolongations de délai, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme autres difficultés, au fait, en tant qu'ingénieur planning et budget?
Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme difficulté? Il y a ce qu'on appelle aussi... par exemple, je peux donner l'exemple du bitume.
OK.
Du bitume et du gasoil. Sur ces dernières années, à cause même du Covid, etc., lorsque, par exemple, tu as signé un marché en 2019,
okay.
Le bitume coûtait tant, le gasoil coûtait tant. Et puis, on a eu une inflation mondiale
oui.
qui a fait que le prix du bitume et du gasoil ont véritablement haussé. Donc, forcément, pour des activités, par exemple, comme l'application d'enrobé, l'application de l'accrochage et tout ça, tu te retrouves à avoir plus de charges que prévu. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent donner lieu à ce qu'on appelle des réclamations.
OK.
Voilà, donc vous allez chiffrer sur la période concernée par l'inflation. Voilà, vous allez chiffrer l'augmentation qu'il y a eu sur le bitume comparé au prix initial que vous aviez au moment de la signature du marché. Mm-hmm. Vous allez aller devant votre client pour dire, voilà, c'est un événement indépendant de ma volonté qui a occasionné une augmentation de mes coûts de production. Voilà la réclamation que je te chiffre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça?
Je ne sais pas trop comment, bon, disons. Je ne vais pas me prononcer sur comment ça se passe dans le secteur public, mais oui. J'imagine, par exemple, si je prends un cas privé,
oui.
Je demande à quelqu'un de construire une maison pour moi, oui. Il fait son devis et tout, je valide, et puis en cours de réalisation, il se rend compte qu'il y a une inflation et tout. Mm-hmm. Généralement, ce n'est pas évident en fait, de pouvoir compenser ça, parce que généralement, quand on doit réaliser un projet, il y a une enveloppe qui est dédiée, certes, il y a des imprévus, mais ce n'est pas toujours évident.
C'est un outil, si tu veux, de négociation. C'est un peu stratégique. Tu vas chiffrer une réclamation. Et puis, tu vas dire, voilà le montant de la réclamation et tout. Ça va amener le client à la table de négociation. Il va te dire, moi, je ne peux pas te payer tout ce que tu me demandes là et tout. Je ne peux pas. Mais ça va l'emmener peut-être à te proposer une solution ou quelque chose d'autre qui va te permettre de rentrer dans tes coûts. Donc, c'est des stratégies. Ce n'est pas toutes les entreprises qui adopte l'arme de la réclamation. Je l'ai vu très peu, mais je l'ai quand même vu. Voilà.
Okay.
Donc, si tu veux, c'est une stratégie de management. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qui est gratifiant dans ce métier d'ingénieur budget et planning?
Ce qui est gratifiant aujourd'hui, à l'échelle d'un chantier, à l'époque, je ne voyais pas trop la gratification. Puisque tu as la tête dans le guidon.
Oui.
Maintenant, de ma position où tu vois tous les chantiers évoluer en même temps, ce qui est bien, c'est d'avoir cette possibilité-là, par exemple, de voir quelles sont les stratégies d'investissement de matériel que l'entreprise peut avoir. Parce qu'on connaît le nombre d'affaires qu'on a qui tournent en même temps, on connaît le nombre d'affaires qui arrivent. Donc, est-ce qu'on fait de la location? Est-ce qu'on augmente le parc matériel? Comment vraiment, c'est cette partie un peu plus management qui me plaît dans cette partie de ma carrière en ce moment.
J'aimerais qu'on développe un peu plus cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on gère plusieurs chantiers en même temps, on fait les plannings et les budgets.
Oui.
Quand est-ce qu'on décide, par exemple, de louer des engins, mm-hmm. ou bien on décide d'augmenter notre parc, les engins de notre parc?
Alors, je vais revenir un peu en arrière. Le planning d'exécution, c'est le programme d'exécution du chantier ou bien d'un projet dans les délais donnés par le client.
Okay.
D'accord? Mais ce planning-là, il va donner lieu à un planning de ressources. Donc, dans le planning ressources, tu as le planning matériel, tu as le planning du personnel, tu as le planning même des fournitures.
Ouais.
Et maintenant, pour chaque chantier, tu fais l'exercice. Donc, tu sais que je prends n'importe quoi. Tu commences par exemple ton chantier avec le débroussement, en général, tu peux commencer le décapage, tu vas commencer ton chantier avec deux bulles. Peut-être un bulle si tu as une carrière à faire ou tu as des installations à faire. Et ensuite, ainsi de suite, quand ton chantier monte en puissance, peut-être que tu auras peut-être sept bulles et tout ça. Donc, tu mets l'évolution de tes engins. Après, tu ajoutes un autre chantier. Donc, si tu as 10 chantiers, tu as cette vision-là de tous les engins qui tournent en même, de nombre d'engins qui tournent en même temps sur une certaine période. Et tu as le nombre d'engins dans ton parc matériel, n'est-ce pas?
C'est ça.
Donc, tu sais combien d'engins est-ce que tu peux mobiliser. Maintenant, lorsque tu fais ton addition, tu fais ta somme d'engins qui tournent à un moment donné, tu regardes le pic d'activité, tu te rends compte que tu auras besoin de plus d'engins que tu ne possèdes.
Ok.
Tu observes le pic va durer pendant combien de temps? Si le pic dure 2 à 3 mois, par exemple, tu peux avoir recours à de la location,
okay.
par exemple. Maintenant, si le pic est plus long et qu'il y a des affaires même qui vont peut-être démarrer au moment même du pic, tu te dis, bon, j'ai des affaires qui vont commencer. J'ai un pic. Est-ce que la location est bénéfique? Peut-être qu'il faut que j'investisse dans l'achat de 2 ou 3 nouveaux bulles,
okay.
et tout. Donc, c'est un peu cet exercice-là qu'on fait à partir de simple planning d'exécution que nous élaborons.
D'accord. C'est de manière implicite, on va peut-être regarder la durée du pic,
c'est ça.
Le montant de la location et puis le montant de l'investissement et puis comparer.
Exactement. On compare et on voit qu'est-ce qui nous paraît beaucoup plus avantageux.
OK.
Voilà.
D'accord. Maintenant, on a parlé plus ou moins en général du travail de l'ingénieur budget planning. Mais oui. Est-ce que tu penses qu'on peut parler d'un projet particulier, par exemple, qui te tient à cœur, qui est soit terminé ou soit en cours? On peut ne pas nommer explicitement le projet si ça pose problème. Mm-hmm. Mais déjà, tu nous parles de ton travail de bout en bout, au fait, avec en griffe des cas réels, quoi.
D'accord. Un projet en particulier, aujourd'hui, comme je ne suis pas sur un projet, je peux parler de plusieurs projets en même temps, en fait, et de ma position. J'ai déjà même commencé à le faire en te donnant l'exemple de... Alors, qu'est-ce qui peut me venir en tête? Voilà, je parlais de matériel,
oui,
de pression qu'on a sur le matériel. Donc, on a eu un cas, par exemple, où lorsqu'on a fini de faire la superposition et on a vu la pression, on s'est dit... Il y a un problème. Même si on veut avoir recours à la location, par exemple, quand tu prends les activités de stabilisation au ciment, on utilise un engin qu'on appelle le pulvimixeur ou la recycleuse.
Oui.
Ce sont des engins qui sont plus ou moins rares. C'est difficile même à trouver en location. Je me rappelle sur un projet précédent qu'on avait une telle pression sur le recyclage. On en a cherché partout en Côte d'Ivoire, on n'a pas trouvé de pulvis. On a allé chercher des pulvis à l'extérieur, notamment au Burkina Faso.
Wow.
Donc, lorsqu'on a vu ça, on a dit, on va avoir un souci. On va avoir un souci. Est-ce qu'on ne peut pas changer la structure de chaussée, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas aller voir le client et faire des équivalents de structure pour voir... Si on lui propose, peut-être à la place de la stabilisation, on lui propose par exemple de la GNT ou bien on lui propose autre chose. Il y a eu aussi un cas équivalent où on avait même un problème au niveau de la GNT. La GNT, on avait les carrières qui étaient autour de nous. Les carrières qui étaient autour de nous ne produisaient pas la GNT avec le bon loss.
Okay.
Par exemple.
Loss pour Los Angeles.
Oui, pour Los Angeles. Or, c'est une exigence du marché.
Ouais.
Et tout. On ne peut pas se permettre de mettre un caillou qui ne va pas résister, qui va devenir de la farine.
C'est ça.
On appelle ça entre nous de la farine. Donc, on a aussi demandé à ce niveau-là, est-ce qu'on ne pouvait pas changer la structure de chaussée? Passer, par exemple, en graveleux latéritique, mais stabiliser à tel pourcentage de ciment pour obtenir à peu près le même module et tout, et puis avancer. Donc, en général, lorsque on fait notre analyse, nos projections au niveau des pics, au niveau des ressources, au niveau des carrières et tout ça, et qu'on regarde, ça nous permet d'aller toujours vers le client pour lui proposer de nouvelles stratégies. L'essentiel est que nous obtenions une route qui réponde aux qualités et aux normes vraiment prévues par le marché et pour qu'on desserve la population avec le meilleur résultat possible. Donc, le projet, ce que je peux dire en général sur les différents projets, c'est que les projets ne sont pas linéaires. À chaque fois, on a des défis d'ordre logistique,
ouais,
d'ordre qualitatif. Et notre travail consiste à proposer à chaque fois aux clients des solutions.
J'ai un de mes aînés qui aime dire ça. C'est-à-dire qu'on nous appelle ingénieurs parce qu'il y a des problèmes. S'il n'y avait pas de problème, que tout est sur des roulettes, il n'y aurait pas eu d'ingénieur, donc normal qu'un projet du début à la fin, on ne réalise pas exactement ce qui a été prévu. Exactement. Raison de plus, il y a des plans de récollement parce que tout change au fur et à mesure pour une raison ou pour une autre.
C'est ça. Et ce qui est bien dans notre métier, le métier d'ingénieur planning, il fait un peu de méthode. Il fait beaucoup de méthodes même d'ailleurs. Parce que pour définir le budget, par exemple, je vais prendre n'importe quoi, du déblai, il faut savoir comment un déblai se déroule de bout en bout. Donc, tu as la méthodologie d'exécution qui te permet de définir. Et c'est en cela que, lorsque je regarde mon parcours, je suis reconnaissante quand même pour les différents départements que j'ai traversés.
Ouais.
Parce que le qualiticien, c'est lui qui dit ce qu'on fait et qui s'assure qu'on fait ce qu'on dit.
Ouais.
Et donc, quelque part, lui, il est un peu méthode. Quelque part. Donc, mon background de qualiticienne me sert beaucoup quand je fais du budget, du planning, parce que je sais comment une activité se déroule. Et donc, ça, c'est un truc qui me passionne et qui me plaît beaucoup. Voilà.
OK. On tend vers la fin de l'interview.
Déjà?
Non, t'inquiète. On a encore des choses à dire, mais on tend vers la fin. On n'est pas encore à la fin.
Super.
De nos jours, on parle beaucoup d'intelligence artificielle.
Oui.
Est-ce que dans ton métier d'ingénieur planning,
oui,
l'intelligence artificielle a déjà eu un impact ou tu penses que ça aura? Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle dans le cadre de ton travail?
Non.
Non.
Non. D'accord. Mais vraiment, je me sens un peu loin de l'intelligence artificielle pour le moment.
Ok.
Oui.
En fait, je pose la question parce qu'il y a certains secteurs du, pas du génie civil, mais peut-être de l'architecture,
oui,
qui sont vraiment touchés par ça.
Oui.
Donc, je me demandais peut-être que...
Peut-être en termes de design.
Oui, en termes de design, mais ça touche presque tous les secteurs, donc peut-être que le tien, il est impacté.
Ah non, pour le moment,
donc,
ça
c'était
va.
Juste pour savoir ça.
Non, ça va.
Ok. En début d'épisode, je te le disais, tu es la première dame sur le podcast.
Oui.
Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi la vie d'une femme ingénieure dans le milieu qui est dominé par des hommes?
Alors, la vie d'une femme dans un milieu dominé par les hommes n'est pas simple, n'est pas facile. Parce que quand tu arrives, tu fais tâche, déjà pour commencer. Tu fais tâche et bah, des fois, dans la tête de certains de tes collaborateurs masculins, la limite entre le privé et le professionnel est très, 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 très fine. Je m'explique. Des fois, ils pensent que leur collaboratrice femme, c'est leur femme. Donc, ils attendent d'elle des types d'attitudes ou de services d'ordre domestique.
Exemple.
Par exemple, on est tous là comme ça, on a bu du café. Et bon, c'est moi qui vais débarrasser la table en prenant les tasses de café de tout le monde comme je suis la seule dame dans la pièce. Je dis non. Et donc, c'est un peu ça qui m'a rendue, dans les premières années justement de ma pratique, qui m'a rendue très, très stricte et qui m'a valu justement le reproche du DRH dont je parlais.
Okay.
Parce que je voulais tellement pas que les gens franchissent la limite que j'ai oublié de diluer un peu les choses. Donc au début, mesdames, vous aurez du mal à trouver la bonne formule pour éviter que les gens dépassent les bornes. Ensuite, une femme dans le génie civil doit travailler deux fois plus. Parce que les hommes ont ce côté un peu paternaliste là. Et tout. On ne veut pas que tu ailles trop sur le chantier, il ne faut pas que le soleil te touche, il ne faut pas que tu prennes la poussière. En temps, tu as fait des études justement pour prendre la poussière. Tu as fait des études pour aller sur le terrain pour comprendre comment les choses se passent. Donc, si tu commets l'erreur de les écouter et de ne pas aller sur le chantier, tu ne vas pas apprendre.
D'accord. Je comprends ce que tu dis, mais concernant ce point, moi, j'ai une anecdote relativement à ça. C'est-à-dire oui. que dans une entreprise précédente, j'avais j'avais une équipe composée de femmes et tout.
Oui.
Lorsqu'il y a un pic, je suis dans un laboratoire où j'ai besoin de laborantin,
oui.
il y a des femmes, il y a des hommes.
Oui.
On a besoin de taper des CBL, les femmes disent non, c'est trop pour moi.
Ouais.
Ou bien lorsque j'ai besoin d'envoyer des gens sur des chantiers très loin,
ouais.
non, je suis enceinte, c'est comme ci, c'est comme ça.
Uh-huh.
Donc, au fait, je ne justifie pas le ton paternaliste des hommes, uh-huh. mais il y a une réalité qui est là aussi.
Bien sûr. Effectivement, cette réalité-là, elle m'a rattrapée, hein. J'allais même en venir. C'est que les hommes ont cette facilité-là de trouver l'amour partout. Partout.
Mais tu penses que ce n'est pas le cas pour les femmes?
Ah mais non, c'est difficile. Excuse-moi, mais quand tu es dans une localité perdue et tout, c'est un peu difficile de trouver l'amour, de trouver l'équivalent, d'avoir
peut-être,
une vie
peut-être
sociale.
Peut-être que le standard est trop élevé
non,
aussi.
Non, le standard, oui, bien entendu que le standard est trop élevé pour les spécimens présents dans la région. Je suis désolée, c'est pas une offense, mais c'est comme ça. Donc, tu vas te retrouver à un moment donné à penser à ta vie personnelle, à ta vie sociale, à ta vie matrimoniale. Et c'est là que tu vas commencer à te dire, bah, il faut que peut-être que je retourne en agence. En tout cas, moi, ça a été le cas. J'ai dit, OK, tu as fait des gros chantiers, c'est bon. Est-ce que tu ne vas pas aller en agence, retourner en agence? Donc, je priais vraiment pour ça. C'est pour ça que lorsque l'opportunité est venue de retourner en agence,
ouais.
j'ai sauté sur l'opportunité. En dehors même du défi de ne plus être seulement affilié à un chantier, mais d'être affilié à...
De superviser plusieurs chantiers.
À trois pays, par exemple, parce que mon travail ne se limite pas seulement à la Côte d'Ivoire. Ouais. Je travaille sur le Bénin, je travaille sur le Togo. Donc, oui, ça m'a plu. Je me suis dit, enfin, je retourne à Abidjan, où là-bas, the dating pool est beaucoup, c'est beaucoup plus grand. Et donc, j'ai beaucoup plus de... C'est une question de probabilité.
D'accord, j'espère que, comment on appelle ça, le retour a payé. Et même s'il n'a pas encore payé, j'espère qu'il payera.
Ben, c'est en cours de progression, donc on croise les doigts.
D'accord. Quelle a été l'expérience la plus mémorable pour toi en tant que femme dans le génie civil?
La plus mémorable?
On va dire les deux expériences. On va... la plus mémorable dans le bon sens du thème, et puis celle que tu n'aimerais vraiment plus jamais revivre.
Alors, l'expérience la plus mémorable, il y en a deux. Il y a une très, très récente où j'ai eu l'opportunité justement de partir au Bénin pour le lancement de 4 projets à la fois et tout ça. Et j'étais vraiment fascinée par la période de préparation du chantier. J'ai été bluffée par la façon dont les intelligences se sont mises en commun. On a arrivé sur le Bénin, à Cotonou. On a commencé à travailler dès 7-8 heures du matin. On était là à fond, on ne prenait pas de pause. Et les esprits, le génie, c'est là que tu vois vraiment le génie. En tout cas, c'est là que moi, j'ai vu le génie civil. De tous les participants à chercher des solutions, parce qu'on a vu que la première solution, la proposition, même le marché même du client ne tenait pas la route, on ne pouvait pas le faire. Donc tout le monde a commencé à chercher des solutions entre ce qui serait le plus économique, ce qui serait moins chronophage, etc. Et ce que le client pourrait accepter pour ne pas dépasser l'enveloppe du projet, ça m'a tellement plu et je veux revivre ça encore. Je veux revivre ça encore et encore. C'est une des fois où je me suis dit, je ne me suis pas trompée de métier. Je ne suis pas trompée de métier. La deuxième fois, c'était il y a quelques années de cela, où mon chef m'a dit, écoute, ce que tu fais, c'est tellement bien que je t'ai proposé pour qu'on vienne faire un reportage sur toi. Donc, on m'a suivi toute une journée, on m'a filmé, on a monté un mini documentaire sur moi. C'était tellement bien que c'est même passé dans le journal à l'international de l'entreprise.
Je pense avoir vu ça sur Twitter.
Et donc, ouais, ça, c'est une de mes expériences aussi les plus mémorables. Ce qui est moins mémorable, enfin moins agréable, mais tout aussi mémorable, c'est ma période de flottement, même sur le chantier, quand j'ai commencé, où on m'avait dit que j'étais trop jeune pour le poste d'ingénieur qualité. Donc, on m'avait proposé, sans toucher à mon salaire et tout ça, une petite tâche de reprographe pendant 7 mois. Où je ne faisais que de l'archivage, de la diffusion de procédures, de l'élaboration de procédures et tout. En ce moment-là, je me plaignais beaucoup, parce que ce n'était pas pour ça que j'étais venue. Mais avec le temps, je me rends compte que le fait d'écrire, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'écrire des procédures, d'en avoir écrit des tonnes et des tonnes, ça m'a permis de consolider mon expérience d'ingénieur budget planning, parce que je connais les méthodes. Mais à l'époque, c'était très dur.
Mais est-ce que ça, on va dire quoi, le fait qu'on t'ait récalé comme ça, c'était lié au fait que tu sois une femme? Tu penses que si c'était un homme à ce même âge, tu serais récalé aussi?
Je pense que c'est plus lié au fait que j'étais jeune et que le projet était tellement costaud que le DP a dit il ne veut pas prendre le risque de mettre quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'expérience. Il est dans son droit parfaitement. Mais je pense que par la suite, il a su se rattraper et bon, rien n'arrive, comme je l'ai dit, de façon fortuite. Donc c'est bien. Tout est bien qui finit bien.
D'accord. On va entamer, on va dire quoi, la dernière partie de l'interview, malheureusement.
Déjà?
Oui, on t'en veut une.
Ok.
J'aimerais savoir, est-ce que tu as des astuces pour être productive?
D'accord, des astuces pour être productive. Déjà, il faut être organisé.
Oui.
Super organisé. Ça commence par l'extérieur. Je m'explique. Il faut que ta table de travail soit dégagée. Ça, vraiment, c'est mon mentor qui m'a inculqué cela. Quand tu as plusieurs documents sur la table, ça veut dire que ton esprit même est flou. Tu es en train de travailler sur un sujet. Si le sujet, c'est une feuille, c'est cette feuille-là seulement qui doit être sur la table. Déjà, ça montre que tu es organisé. Ensuite, l'organisation dans tes fichiers dans ton ordinateur, il faut que tu aies des dossiers, un plan de classement. La qualiticienne en moi parle de plan de classement. Ce plan de classement, il doit être autant physique, donc avoir des classeurs de rangement. Les cartons d'archivage, ce n'est pas du rangement. Achetez des classeurs, mettez vos documents dedans. Et les documents qui sont dans vos classeurs doivent être aussi, c'est les mêmes qui doivent être dans votre PC. Voilà. L'archivage qui est dans votre PC a un équivalent physique. Si tout est bien classé dedans, tout est bien ordonné, vous avez un esprit clair. Pour être productif, c'est ça. Il ne faut pas que les choses soient dispersées sur le bureau. Souvent, j'ouvre des PC, je vois plein de trucs sur le bureau. Les choses ne sont pas la nomenclature, on ne comprend rien dedans. Ça commence par là. Ensuite, pour être productif, il faut bien dormir. Il faut avoir beaucoup d'heures de sommeil. Il faut avoir 7 heures, 6 heures de sommeil, c'est pas mal. Si tu peux avoir 8 heures, c'est très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Okay. Il faut avoir une vie personnelle saine. Il y a un temps pour s'amuser, les week-ends sont là pour ça. Quand on est en début de carrière, il faut être discipliné sur son hygiène de vie. Parce que quand on n'a pas suffisamment d'heures de sommeil, on est très vite fatigué, on ne tient pas. Et quand on est dans des environnements assez compétitifs et où on subit énormément de pression, travailler avec des DG, je vous le dis, ce n'est pas facile. Donc, tu as beaucoup de pression, il faut que tu dormes bien. Ça, principalement, c'est les deux choses que je peux dire. Après ça, beaucoup de lecture, beaucoup d'humilité, poser beaucoup de questions et ça roule.
D'accord. C'est-à-dire le sport ne fait pas partie?
Le sport, c'est un défouloir. Oui, ça peut faire partie.
Ah, mais j'ai pas entendu le sport.
C'est un défouloir, mais en ce moment-là, c'est pas évident. C'est pas évident. On reprend juste à peine, donc je vais pas mettre ça là-dedans.
D'accord. Mm-hmm. La dernière question, elle est relative à quel conseil tu aimerais donner aux plus jeunes, surtout aux femmes qui voulaient faire le métier de génie civil.
Alors, un conseil aux plus jeunes, de mon expérience, c'est que tu n'es pas obligé de tout maîtriser tout de suite. Quand je dis tout maîtriser, c'est d'avoir, comme je l'ai dit là, une vision très claire des choses. Si tu ne sais pas exactement où tu pars, ce n'est pas grave. Il y a des gens pour qui c'est facile. Il y a des gens qui font exactement ce qu'ils ont pensé. Mais ce n'était pas mon cas. Et lorsque j'ai insisté sciemment sur mon parcours, parce que je pense que c'est important d'avoir des exemples de parcours imparfaits comme ça et tout. Donc, ce n'est pas grave. Ne vous mettez pas trop de pression par rapport à la vision. Prenez les choses telles qu'elles viennent. Et lorsque vous êtes quelque part, donnez-vous à 100%. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas lésiné à faire. J'ai toujours donné 100%, voire 200% de ma personne. Travaillez avec excellence et avancez à petits pas. Les choses se feront au fur et à mesure. Le fait que vous vous donniez à 100%, ça va vous permettre, en fait, lorsque l'opportunité arrivera, d'être prêt.
Ouais.
Voilà. Maintenant, les femmes, en particulier dans le génie civil, accrochez-vous. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est contraignant, c'est beaucoup de sacrifices. Et à un moment donné, faites le choix, un choix qui vous rendra heureuse. C'est un peu bateau à dire, on va dire ça. Ce n'est pas du développement personnel qu'on fait, mais à la fin de la journée, c'est ça. Le plus important, c'est d'être heureuse. Si aller sur chantier, parcourir le monde, c'est ça qui vous rend heureuse, faites-le. Mais si à un moment donné, vous avez besoin d'avoir un ancrage, une famille, quelqu'un qui vous ressemble, de rentrer à la maison et d'être avec quelqu'un qui vous comprend, faites le choix, faites des choix pour aller dans ce sens-là. Voilà.
D'accord. Je tenais vraiment à te remercier. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode. J'espère que c'était le cas pour toi aussi.
Mais parfaitement, j'aime beaucoup parler, donc voilà. Ça m'a donné une tribune, je me suis exprimée.
Moi, ça ne me dérange pas. J'espère que les auditeurs vont apprécier tel que je l'ai apprécié. Mm-hmm. Et puis encore, merci. Je ne sais pas si tu as un mot de fin.
Non, je pense avoir tout dit. Je veux saluer, par contre, l'initiative. Je ne savais pas qu'il y avait un podcast du génie civil avant que tu me contactes. Et je suis très contente qu'on ait une lucarne, une plateforme où on peut s'exprimer. On peut voir la diversité de parcours qu'il y a dans le génie civil.
Si.
C'est une initiative que je salue et je te souhaite véritablement d'atteindre le maximum de personnes à travers cette plateforme-là.
Merci beaucoup et surtout, te remercie encore pour la disponibilité et puis d'avoir facilité les choses. Je dis ça comme ça.
D'accord.
Merci et puis à la prochaine.